Est-ce qu'on peut prendre ça comme ça? Alors, ce matin, on est là. J'aimerais faire passer Billy, si tu peux nous envoyer sur nos missionnaires, avant d'introduire notre frère Philippe Bélanger et Isabelle, qui sont ici pour nous visiter. Alors, cette semaine, vous allez voir que le comité missionnaire vous envoie deux missionnaires qui vont parler de la mission. Jackie et nous, la semaine passée, et aujourd'hui, c'est Philippe Bélanger qui vont nous parler de leur ministère et de leur envie d'aller en mission à Slovaquie. C'est ça? Alors, oui. Donc, on va vous présenter nos missionnaires déjà. Nos missionnaires que nous avons, que nous soutenons dans l'Assemblée et dans leur lieu de travail. Vous allez voir, les étoiles vont apparaître là où les gens sont. Alors, je pense que c'est parti, voilà. C'est les missionnaires que nous avons présentement à l'Assemblée, que l'Assemblée soutient. Dimanche dernier, le budget avait été déjà voté pour ces personnes. Donc, nous essayons d'aller avec cela. On ne voit pas Philippe dedans parce que, pour l'instant, on n'a pas le budget pour le soutenir et puis son dossier n'a pas encore été amené devant le comité missionnaire pour être examiné. Mais il nous a demandé qu'il voulait présenter. On a dit oui, il peut présenter la mission, il peut présenter l'appel de Dieu dans sa vie. Et maintenant, on verra avec l'Assemblée si dans l'avenir, si Dieu nous met à cœur de pouvoir soutenir, on verra. Mais pour l'instant, on n'a pas quelque chose, mais si jamais quelque chose arrive, pour lui, ce serait bien. Si Dieu ouvre vos bourses, ben, faites-le, puis contactez le comité missionnaire et puis on verra avec cela. Alors, nos missionnaires que nous avons, que vous devez continuer de prier pour eux aussi, c'est ceux-là qu'on a devant nous. Simon Leblanc, dont le soutien n'est pas encore complet jusqu'à présent. Et Jackie et nous, on a vu, a besoin encore plus pour pouvoir soutenir d'autres personnes pour aider. Et nous voyons l'heure de la bonne nouvelle qui travaille avec nous et qui font beaucoup de programmation et puis beaucoup d'émissions télévisuelles. Et nous voyons aussi les Tétro qui sont aux États-Unis qui ne peuvent pas encore partir parce que leur soutien n'est pas encore totalement complet. Alors, avec notre frère Fernand Saint-Louis, hein, qui continue de faire l'émission à la radio et par l'Internet, et puis il fait beaucoup, beaucoup de bon travail. Monsieur le Pagé, qui est avec nous, et notre groupe famille Gabriel Paquin, qui est à Saint-Anne-des-Monts, que nos frères sont allés visiter il y a quelque temps. Ça va? Alors, donc, est-ce que tu peux partir pour qu'on voie les points où ces gens-là travaillent, dans les contrées du monde où ils travaillent? Ça marche pas? Ah, vous les avez vus? Ok, excusez, si on a vu, il n'y a pas de problème. Alors, donc, tu peux fermer ça, on va introduire Philippe Bélanger qui est parmi nous, avec sa femme Isabelle, ils ont 4 enfants parmi nous ici. Je pense que Philippe, je vais le laisser parler de cela. Et j'ai vu ce matin sa femme, j'ai dit, mais toi, je te connais, je t'ai déjà vu quelque part. Elle dit, mais oui, à Chauveau avec la famille Fontaine. J'ai dit, oui, mais tu n'avais pas d'enfant en ce moment. Elle dit, oui, je n'étais pas marié. Donc, ça fait 4 qu'elle a. C'est bon, Philippe, tu peux venir.
C'est bon, moi je suis parfait. Voilà, ok. Ma voix se rend jusqu'à vous maintenant. Donc, oui, bon, bonjour à tous et à toutes. On est bien heureux d'avoir l'occasion d'être ici ce matin, d'avoir l'occasion de pouvoir partager justement avec vous ce que le Seigneur nous met à cœur. Puis, effectivement, on peut lancer le diaporama dès qu'on est prêt. Dans le fond, comme il était mentionné, oui, effectivement, mon nom c'est Philippe Bélanger. Je suis le fils de Daniel Bélanger, mais pas le chanteur. Il y en a peut-être qui connaissent mon papa à travers les Gédéons ou à travers différents, d'une autre manière, parce que mon père est un peu connu au Québec. Je suis l'heureux papa, en fait, l'heureux mari d'une merveilleuse femme, Isabelle Brière, et l'heureux papa de 4 enfants. Donc, on a Samuel, qui est mon plus grand, qui a 5 ans et demi. On a Ézéchiel, mon deuxième, qui a 4 ans. Notre fille, qui est elle aussi en haut présentement, Rosalie, a presque 2 ans, voire 2 ans à la fin janvier. Et on en a une qui a décidé qu'elle restait avec nous ici. Non, c'est pas vrai, on la garde avec nous de toute façon. On a Lauriane qui a 2 mois, qui est avec mon épouse à ce moment-ci. Donc, ça a un petit peu sur nous, mais avant de tout vous déballer sur nous, je vais vous parler un petit peu de JET, vu qu'on le voit juste ici. JET, c'est une mission québécoise. Ça veut dire jusqu'aux extrémités de la Terre. Donc, vous avez bien sûr compris que oui, effectivement, ça a le rapport à la mission. Donc, jusqu'aux extrémités de la Terre, c'est une mission, oui, québécoise. C'est des missionnaires, déjà des missionnaires des États-Unis qui sont arrivés au Québec pour faire un ministère de la jeunesse. Ils se sont dit, on veut que les jeunes Québécois, on veut que les Québécois puissent avoir un plus grand avant-goût de la mission, qui est en même temps facilité leur passage en mission. Puis ça va se faire, ça se fait sur deux volets, en fait. De un, ils veulent encourager la mission court terme chez les ados. À chaque été, ils partent 4 à 5 semaines avec un groupe de 15 à 20 ados pour aller rejoindre un missionnaire qui est déjà établi sur le terrain pour lui donner un coup de main. Moi, j'ai fait partie d'un des voyages en 2002 au Brésil. On avait été dans la jungle aider des missionnaires qui traduisaient la Bible dans les langages de différentes tribus. Dans le temps qu'on a passé là-bas, on a pu, en 3 semaines, on a pu les aider à avancer d'un an dans leur travail de traduction de la Bible. Donc, c'est un modèle qui s'est répété à chaque année dans différents pays, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Grèce, que ce soit l'année dernière en Mongolie, oui, en Slovaquie, en République tchèque, d'autres endroits qu'il a visités. La seule règle, en fait, les deux règles que Jet a, va être, dans le fond, on voit une place où est-ce qu'il y a déjà un missionnaire établi et on voit une place qui est moins évangélisée que le Québec. Donc, oui, effectivement, il y a le deuxième volet auquel maintenant je passe, parce que dans le fond, le premier volet sert à donner un avant-goût de la mission, puis d'aider les jeunes à y penser, voire à les mettre dans une situation où est-ce que Dieu pourrait leur parler aussi à ce niveau-là. J'arrive à la deuxième étape, moi, où est-ce que justement Jet veut donner la voie, ouvrir la voie, ouvrir la possibilité à des Québécois francophones d'aller facilement en mission sans avoir à passer par une mission qui est anglophone, ou du moins en facilitant le trajet. En ouvrant la porte le plus possible, justement. Donc, c'est un petit peu sur ça. Si vous voulez nous en parler plus, venez me voir, ça va me faire plaisir, effectivement. Je suis la seule personne à qui vous pouvez vraiment en parler. Cet été, le groupe d'ados, le voyage en tant que tel, vont à l'île de Malte. Donc, vont aller justement pour aider là-bas des missionnaires qui sont établis. L'été dernier, comme j'ai mentionné, en Mongolie. Donc, j'avance. Nous, les Bélangers, effectivement, je vous ai parlé un peu de chaque membre de la famille. S'il y en a qui se posent la question, vous êtes même, moi, Isabelle, on a 28 ans. Donc, ça, la question est déjà réglée. Effectivement, mes parents, depuis 5 ans, depuis maintenant, on a aussi quelque chose d'autre depuis 5 ans, depuis 5 à 6 ans, même 8 ans dans le cas d'Isabelle. On travaille avec la jeunesse. On a la jeunesse à cœur, on a les ados à cœur. Les deux, on a eu la bénédiction de grandir dans un groupe de jeunes, chacun dans notre assemblée respective, puis on a vu les fruits que ça avait. Fait qu'on a voulu travailler avec la jeunesse. On s'est dit, bien, on veut donner l'occasion aux jeunes d'avoir de l'enseignement, d'avoir des proches de d'autres jeunes chrétiens, d'avoir des bonnes influences. Fait qu'on travaille avec la jeunesse, comme je disais, Isabelle, depuis 8 ans, moi depuis 7 ans, depuis qu'on est mariés, Isabelle et moi. Puis on sentait qu'on était exactement à faire ce qu'on devrait faire. On faisait un ministère jeunesse, on ne se serait pas vu notre vie sans le faire, puis on sentait vraiment ce que c'était ce que Dieu voulait, que ce que Dieu nous mettait à cœur. Mais, dans les 5-6 dernières années, en fait, ce qui est pas mal presque tout le temps, mais dans les 5-6 dernières années, le Seigneur nous a mis juste un petit quelque chose de plus en tête. Le Seigneur nous a montré qu'il voudrait en avoir encore plus. Le Seigneur nous a montré qu'il y avait un petit quelque chose de plus pour nous, en fait, un grand quelque chose. Le Seigneur voulait qu'on s'implique à temps plein, parce que j'avais mon travail. Isabelle, une fois, était même à la maison, puis on s'en occupait justement avec une équipe de d'autres leaders, donc on sent que le Seigneur voulait qu'on s'en occupe à temps plein. Pardonnez si ma voix chèque un peu, je suis sous le phénomène du froid aussi. Donc, mes genoux s'entrechoquent, mes cordes vocales un petit peu aussi. Mais donc, ce qui arrive effectivement, on travaillait à ça, le Seigneur nous montrait, vous faites quelque chose de bien, mais je voudrais vous exporter, je voudrais vous amener ailleurs. Je dis, OK, Seigneur, certainement, on va le faire. Il y a un contrat à page blanche, on signe en bas, tu fais ce que tu veux. Fait qu'on s'est dit, bon. On s'est dit, bon, on ne sait pas où est-ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne nous montre pas c'est où est-ce qu'il veut qu'on aille présentement. Je dis, OK, ben, on va se préparer. On va s'organiser pour être prêt pour juste quand ça va être le moment. Fait qu'on était les deux allés à la parole de vie Bethel, après notre secondaire 5. On s'est dit, besoin un petit peu, on ne peut pas être trop outillé, on ne peut pas avoir trop d'outils dans notre coffre à outils. Donc, on s'est dit, j'ai eu l'occasion de retourner à l'école biblique. À ce moment-là, on est arrivé là-bas, on avait Samuel, Ézéchiel est arrivé 2-3 jours avant que je commence, il est arrivé au monde, 2-3 jours avant que je commence l'école. On était au Nouveau-Brunswick, à ce moment-là, dans le BBI, pour ceux qui pourraient connaître. Donc, j'ai complété là-bas un bac en théologie, puis même 2 ans, après que, justement, on ait entrepris tout ça, presque fini mon cours, où est-ce que tu nous veux, Seigneur? Encore là, c'est encore le calme plat. Fait qu'on continue à avancer. Je fais ma dernière année En même temps, je suis en lien avec Jeff. J'ai tout le temps été très... Ben, Jeff, le directeur de la mission Jet à ce moment-là. Puis, j'étais en contact avec lui pour, justement, dans ma dernière année, faire une partie de ministère avec Jet, une partie de ministère qui est mon assemblée locale. Puis, il me dit, bon, nous, cet été, on s'en va en République tchèque, en Slovaquie. Peut-être que c'est là que le Seigneur voudrait vous avoir, puis vous voyez venir. Peut-être que c'est là que le Seigneur voudrait vous avoir, puis je pourrais t'arranger les billets d'avion, vous pourriez juste voyager un peu à côté de nous, visiter des églises, tout ça. Isabelle, on a dit, ben pourquoi pas, on va voir si c'est là que le Seigneur nous veut, si le Seigneur veut qu'on ramène des formations au pays, puis que quelqu'un d'autre ait à cœur de le faire. Je ne sais pas ce qui est arrivé, le Seigneur avait à cœur que ce soit nous qui le fasse. Mais donc, on a voyagé là-bas pendant 5 semaines, pas l'été dernier, l'été d'avant. On a visité une douzaine d'églises. Où est-ce qu'on a eu l'occasion de parler avec des pasteurs, parler des anciens. On a visité aussi un ou deux ministères de camp qui étaient là-bas. Donc, on a fait un total de 500 kilomètres, que ce soit en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, pour juste savoir, est-ce qu'une de ces places-là, c'est notre place? Puis, le Seigneur nous a dit, oui, il y a une de ces places-là qui est votre place. Puis là, ben, vous avez un peu la réponse déjà, la Slovaquie. La Slovaquie, c'est là que le Seigneur nous a mis à cœur d'aller. C'est parce que, justement, lui voulait, parce que c'est pas nous qui a cherché, puis qui a dit, oh, ben, écoute, on va lancer un dart sur une map monde, puis c'est ça qui va nous aider à décider. Non. Mais le Seigneur, justement, à sa propre façon, parce que le jet s'en va pas en Slovaquie à chaque été, le Seigneur voulait que cet été-là, ça arrive avec la fin de mes études, puis que ce soit là qu'on se dirige. Donc, la Slovaquie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous autres qui sont ferrés en géographie. La Slovaquie partage ses frontières avec 5 autres pays. Est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à se lancer et à mentionner peut-être des pays qui sont là? La Pologne, effectivement, oui, la Pologne est au nord ici, oui. La République tchèque étant quand même un facile, oui, avec l'ancienne Tchécoslovaquie, oui. Ouais, il reste ici, là et là. Non, pas la Moldavie, non. L'Autriche, effectivement, oui, Osterweich. Oui, l'Autriche qui est juste là. Il en reste deux, effectivement, la Hongrie ici. Le nom ne ressemble pas en tout à ça, c'est dans leur langue à eux. Donc, je ne me risquerai même pas à le prononcer. Et puis, il en reste un petit dernier ici. Souvent, il est oublié, il est quand même dans le... Ben, souvent, il est oublié. Souvent, c'est celui-là que les gens oublient dans mes présentations. Je viens à ma partie où est-ce que je parle, qu'on entend parler de ce pays-là présentement dans les nouvelles. L'Ukraine, effectivement, oui, l'Ukraine. Les problèmes se passent plus vers ici, là, avec la Russie, pas là, là, mais quand même. Donc oui, l'Ukraine. On parle justement de ces 5 pays-là. On parle de la Slovaquie, qui est aussi divisée en différentes provinces, comme notre pays à nous. Mais à ce moment-là, on parle d'un pays qui est quand même... qui fait partie de l'Union européenne, mais pas pour autant que c'est un pays qui est riche. On parle du pays le plus pauvre dans l'Union européenne. Si on regarde un peu de qu'est-ce que ce pays-là a l'air, c'est un pays qui va avoir quand même une géographie qui va ressembler à la nôtre, parce qu'on va parler... Il y a une grande chaîne de montagnes, ce qu'on n'a pas nous autres par ici, mais le reste, pour avoir voyagé beaucoup, beaucoup de kilomètres, avoir roulé beaucoup, beaucoup de kilomètres dedans, ça se ressemble quand même beaucoup. On n'était pas dépaysé. C'est un pays où est-ce qu'il y a un petit peu plus chaud qu'ici. Pas tant que ça. Ils ont quand même de la neige l'hiver, la majorité des hivers. Mais j'étais là en février, l'été février dernier, avec une équipe d'hommes pour aider justement un ministère là-bas de camp chrétien qui est en devenir, camp école biblique en chrétien en devenir. Puis il faisait 8 degrés Celsius en février. C'était anormalement chaud, mais quand même. Mais tout de même. On parle de ça, puis en été, c'est une température qui est quand même vraiment plus chaude que nous, en moyenne 35 degrés, mais un 35 degrés sec. Bon, je te l'ai dit. Qu'est-ce qui est marquant d'autre par rapport à la Slovaquie? La Slovaquie, c'est un pays qui va avoir beaucoup, beaucoup d'ensoleillement. On parle d'une région qui est en grande, grande partie productrice de vin, mais c'est pas tant et tellement ce qu'on retient de la Slovaquie. La Slovaquie exporte pas de vin jusqu'ici, à ma connaissance, mais ils ont quand même des exportations quand même intéressantes jusqu'ici. Puis ça va bien dans notre avec le thème libre qu'on avait ce matin. Le hockey semblait revenir à tout, à tout début de sujet. La Slovaquie exporte plusieurs joueurs de hockey, on pourrait dire de cette façon-là. Si on recule dans le temps, pour ceux qui ont peut-être déjà été fans des Nordiques, les Stachny étaient des Slovaques. Je pense pas qu'il y ait il y a peut-être des fans de Boston ici. Pour des fans du Canadien qui n'aiment pas Boston, je m'excuse. Zdeno Chara est un Slovaque aussi. On va parler des Ossa aussi. On va parler de Petar Budaj, qui était le deuxième gardien du Canadien avant d'être échangé. Donc, tous ces gens-là sont effectivement des Slovaques qui sont par ici. Oui, il n'y a pas énormément d'autres Slovaques qui sont connus. Peut-être dans le monde chrétien, peut-être que vous avez entendu parler de Jean Gazdik, parce que c'était un Slovaque justement aussi. M. Gazdik qui est décédé dans les dernières semaines, mais qui était justement un Slovaque qui s'était enfui pendant le rideau de fer, pendant la période du rideau de fer, pour s'en venir ici et qui a formé différentes églises au Québec. Donc, cela dit, on parlait justement des Slovaques. Les Slovaques, combien il y en a? Puis, à quoi justement un peu plus le pays ressemble? Le pays est grand comme la Nouvelle-Écosse. C'est pas très, très grand, on s'entend. Pour ceux qui ont encore leur géographie du Canada, pas trop loin de la géographie du Canada. Mais, en revanche, ils ont 5,5 millions d'habitants. Ça fait quand même un ratio qui est plus concentré, bien sûr, que le Québec. On parle quand même d'un pays qui ressemble, si on parle de son arrière-plan culturel, plutôt religieux, ça ressemble beaucoup au Québec des années 60, pour ceux qui étaient là dans les années 60. J'y étais pas, mais ça y ressemble beaucoup. Donc, c'est un arrière-plan catholicisme. Ils sont habitués avec le concept de Dieu, effectivement, comparé à leurs voisins de la République tchèque, qui sont athées, la Slovaquie, ont le concept de Dieu, mais bien sûr, sans avoir toutes les pièces du casse-tête qui nous est présenté dans la Bible, si on peut le dire de cette façon-là. Si on parle historiquement, si on y va un peu sur l'histoire, historiquement parlant, la Slovaquie a fait partie du grand empire de l'Autriche et de la Hongrie pendant plusieurs années, pendant même une centaine d'années, devrais-je dire. Puis, il était tanné. Ils ont voulu se libérer de ça. Puis c'est là, justement, qui est venu qui est née la Tchécoslovaquie, pour justement essayer de se libérer de cet empire-là. Bon, ça l'a pas amené juste du bon. Ils ont pu se libérer, mais ils ont fini pris, parce que plusieurs de vous vont connaître la réalité qu'il y a eu la période du communisme aussi. C'était, dans le fond, le rideau de fer passait juste ici. Où est-ce qu'on voit ici? Donc, c'était très, très proche de la liberté, mais en fait, très, très loin quand même de la liberté, très, très loin de ce que nous, on peut vivre aussi ici, dans le pays, au Canada. Donc, ils ont vécu de 1948 à 1989 sous le communisme. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que peut-être que pour les jeunes de ma génération et la génération d'après plus jeune que moi, ça veut rien dire, le communisme. Le communisme, à ce moment-là, était très, très répressif. Les chrétiens étaient très, très surveillés. On était presque inventoriés quand on allait à l'église. Puis, par après, bien, ça se reflétait aussi. Les chrétiens n'avaient pas accès à l'université. Bon, cégep, université, chrétien, aucunement accès à ça. Pas d'éducation supérieure. Les chrétiens n'avaient pas le droit de distribuer des Bibles, pas le droit de parler de l'Évangile. J'ai croisé là-bas des chrétiens engagés, qui étaient engagés dans cette période-là, qui sont encore engagés aujourd'hui. Un a été emprisonné pour avoir justement parlé de l'Évangile à d'autres personnes pendant à peu près 6 mois. Un autre chrétien, dans l'intérieur du mur de sa maison, entre l'épaisseur extérieure et l'épaisseur intérieure, cachait des Bibles. Les Bibles étaient empilées là, et puis un était parfait. Dans la maison où est-ce que lui habitait quand il était petit, parce que lui, étant le petit, il était capable de passer par le grenier puis d'aller chercher les Bibles entre les deux épaisseurs de mur. Mais ça était caché. J'ai entendu parler aussi d'une tournée qui s'était faite avec une roulotte qui avait été défaite au complet à l'intérieur, cachée des Bibles, refaite pour que ça ait l'air d'une roulotte, puis là, dans chacun des villages, défaisait un panneau à une place pour prendre des Bibles, les laisser là, puis qu'ils soient distribués. C'est pas la facilité que nous autres, on a, ou qu'on a eu. Ils ont vécu vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés de ce côté-là. Puis, ça l'a amené justement à la réalité que dans leur rapport à leur foi, c'est beaucoup, beaucoup intérieur. Ils sont plus justement, pas sur la défensive, mais ils sont plus réservés de ce côté-là à partager leur foi. La Slovaquie, en fait, nous, pour être plus précis, nous autres, on se dirige dans le nord dans le coin justement ici, dans cette province-là ici, dans la ville de Trenčín qu'on voit en bas ici, avec son château, parce que chaque ville a son château, bien sûr. C'est quand même l'Europe. Puis, donc, c'est une petite ville justement du nord qui est quand même, je pense, qui va être dans les, pas mal dans les grosseurs de Trois-Rivières, qui va ressembler à ça. C'est là qui est originaire Zednaud-Charron. Petit fait simplement. Bon, la suite avec qui, à part ça, qu'est-ce qu'il y aura à dire? S'il y en a qui ont la dent sucrée comme moi, c'est le pays avec la meilleure crème glacée au monde. Ils sont pas nécessairement reconnus mondialement pour ça, mais quelqu'un qui a voyagé dans à peu près 80 pays, 40, à peu près 60 pays, me dit que c'est la meilleure, donc je vais le croire. Donc, la Slovaquie, à part ça, c'est sûr que oui, il y a des besoins en Slovaquie. C'est pas pour rien qu'on veut se diriger là, en Slovaquie. On parle de 20 fois moins de chrétiens qu'au Québec. 20 fois moins de chrétiens que dans notre province. Donc, c'est des chrétiens qui sont éparpillés, des chrétiens, à ce moment-là, oui, qui se réunissent, mais on parle des petites églises. Moi, je regarde, j'aurais de la misère à faire le total présentement de ce qu'il y a devant moi parce que bon, ma capacité d'évaluation n'est pas très, très bonne. Mais c'est sûr que pour eux, vous êtes une méga église. Ça, c'est clair, net et précis. Parce qu'on a visité justement une douzaine d'églises. La plus petite, qui était un groupe de chrétiens, de trois chrétiens, la plus grosse église, qui avait à peu près 30 personnes. Donc, c'est sûr que c'est une réalité qui est quand même ça. Puis si on se disait, ah ben, c'est tous des jeunes adultes, 18 à 25 ans, ils ont toute la vie devant eux. Non, malheureusement, c'est une majorité de personnes âgées. C'est des églises qui sont vieillissantes. Si vous avez 26 ans, pensez pas que vous êtes vieux, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est des églises qui sont vieillissantes, malheureusement. Beaucoup de personnes plus vieilles, sinon des familles avec des jeunes enfants. Les ados, les jeunes adultes ne trouvent pas leur place. Ils déconnectent parce qu'ils ont juste l'impression que justement, Dieu ne s'intéresse pas aux autres. Je ne vois pas trop ma place. Où est-ce que je peux fitter dans tout ça? Donc, quitte l'église, bien sûr, ne reviennent jamais. On revient après avoir vécu des problèmes que Dieu aurait bien voulu leur éviter. C'est ça, c'est des églises qui sont petites, comme je disais, pas de ministère ciblé, donc pas de ministère d'hommes, pas de ministère de femmes, pas de jeunesse, pas d'école du dimanche, malheureusement non plus. La réalité est que, justement, c'est des églises qui, étant vieillissantes, s'il n'y a rien qui change, oui, c'est des églises qui sont appelées, malheureusement, à mourir, des églises qui sont appelées à devenir vraiment petites. Puis, dans le fond, la réalité est qu'il y a un grand besoin. Il y a des pasteurs qu'on a rencontrés, oui, effectivement, qui avaient très, très à cœur d'avoir un ministère, qui ne savaient pas trop, trop par où commencer, ou du moins qui avaient fait des essais ici et là. Bon, nous, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des superstars non plus du ministère de la jeunesse. On en a fait un peu. On a vu le Seigneur bénir, le Seigneur nous diriger aussi à travers sa parole dans quoi faire, comment faire aussi. Donc, oui, on a à cœur, on a été invité par des gens là-bas à justement les diriger pour aller faire un ministère là-bas. Donc, nous, justement, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ces besoins-là? Qu'est-ce qu'on a à cœur? On a à cœur d'avoir un ministère très fade. Non, c'est pas qu'on veut pas mettre, on veut avoir un ministère qui est poche, qui est plate. C'est un acronyme, effectivement. Donc, un ministère très fade, dans le fond, les mots qui se relient à ça, c'est qu'on veut travailler en équipe avec les églises. On veut travailler en équipe avec les assemblées qui sont là-bas. On veut arriver puis justement travailler dans ce qui est déjà existant. On ne veut pas commencer quelque chose qui est totalement nouveau. On ne veut pas partir quelque chose qui est dans un coin où est-ce qu'il n'y a rien et qui n'existe rien. Nous, on a à cœur d'aller travailler avec eux, main dans la main, le plus possible en coopération justement pour avancer. Puis avancer à la même vitesse, avancer dans la même direction. Après ça, on veut rejoindre les jeunes par des activités d'évangélisation. Donc, rejoindre les jeunes de l'Église, rejoindre les jeunes autour de l'Église, parce que l'Église de Trenčín se réunit dans un centre communautaire. Puis autour de ça, il y a des restants, on pourrait dire, du communisme, donc des gros, 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 gros édifices, vraiment laids, mais des gros, gros édifices à logement de, je dirais, une vingtaine, peut-être 25 étages, ce qui est très, très marqué, justement, en Europe, sous communisme. Mais oui, des grands, grands édifices comme ça, remplis, remplis de monde. C'est sûr et certain qu'il y a des ados à quelque part là-dedans. Mais oui, on veut les rejoindre par des activités d'évangélisation. On veut que ça fasse partie aussi. On veut qu'ils entendent parler de l'Évangile, d'une manière ou d'une autre, à tout le moins. On veut, avec le A, avec en fait A, je l'ai déjà mis en désordre, mais dans le fond, à les rejoindre. Après ça, eux, on veut les encourager. Encourager la lecture quotidienne, la lecture de la Bible. On sait que Dieu a un message à nous passer dans sa parole. On sait que Dieu a un message qui est très bon pour nous, qui est la meilleure chose qu'on pourrait apprendre, en fait, à mettre en pratique dans notre vie. Donc, on veut les amener à créer l'habitude de lire dans leur Bible à chaque jour. Comment on le fait? Sans tout dire, on passe à un journal que personnel avec lequel on jase justement avec nos jeunes, ce qu'on fait déjà justement à Québec. Donc, on veut justement amener nos jeunes à passer du temps dans la parole à chaque jour pour qu'ils puissent le faire rendu plus grand, avoir cette habitude-là, puis grandir. Après ça, F, on veut former des leaders nationaux. En fond, nous autres, ce qu'on veut aller faire là-bas, ce qu'on a en cœur, c'est l'implantation de groupes de jeunes. Il y en a qui font de l'implantation d'églises. Nous, on veut faire de l'implantation de groupes de jeunes. Donc, on veut passer du temps avec une église, former des leaders, à partir du début même, embarquer du monde avec nous, les former, dire, ben, on fait quoi pour, ben, dans un ministère de la jeunesse qui est biblique, qui est solide, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, puis faites-le avec nous, apprenez à le faire, parce qu'on veut aller aussi bénir d'autres églises, d'autres assemblées avec la même réalité. On veut aller les aider, on veut implanter ces groupes de jeunes-là pour qu'ils puissent aussi vivre, qu'ils puissent continuer à vivre, même quand que nous, on ne sera plus là, même si soit le jour où on va partir jusqu'au ciel, parce qu'on ne sait pas c'est quand, mais aussi peut-être justement qu'un jour où est-ce qu'on va partir vers une autre assemblée, parce qu'on a à cœur que le plus possible d'assemblées puissent avoir un groupe de jeunes, que le plus de jeunes possible puissent avoir une influence de Dieu dans leur vie, qu'ils puissent voir qu'il y a d'autres chrétiens de leur âge qui puissent justement savoir qu'est-ce que Dieu dit sur différents sujets, que Dieu n'est pas juste n'est pas compliqué, n'est pas juste une question de très sérieux ou de très, très précis. Non, Dieu parle sur toutes les circonstances de la vie, autant de l'âge ado que de l'âge adulte. Dieu en parle, puis Dieu a quelque chose à dire, justement, quelque chose d'important à nous montrer par rapport à ça. Ensuite, on veut animer des rencontres à chaque semaine. On ne veut pas que les jeunes aient de quoi, mettons, juste, je ne sais pas moi, une fois ou deux mois, ou une fois ici, une fois par là, tout ça. On a à cœur que les jeunes puissent avoir souvent une influence pour Dieu, souvent avoir de l'enseignement, souvent apprendre à prier Dieu, prier pour les autres, qu'ils puissent souvent avoir justement du contact avec d'autres chrétiens, des bonnes influences. Puis, on veut les amener plus loin que ça aussi. On veut les amener aussi dans des activités de service. On veut diriger des activités de service qui, justement, vient compléter tous nos objectifs. On veut justement les amener à diriger, on veut les amener plutôt à que l'amour de Dieu, que Dieu a pour eux, qu'ils puissent déborder, qu'ils puissent se montrer aux autres par justement du service, simplement s'impliquer dans la vie d'autres, puis les servir du monde qu'ils ne connaissent pas sans raison, c'est pas parce qu'ils vont avoir de l'argent ou quoi que ce soit, ou aussi justement les amener à que l'amour de Dieu déborde, puis justement qu'ils puissent parler de cet amour-là de Dieu aux autres autour d'eux. Donc, nous, c'est ce qu'on veut faire là-dedans. Maintenant, c'est sûr que vous allez vous dire, moi, il ne peut pas m'amener avec un billet d'avion, il ne peut pas m'amener en Slovaquie, ça c'est sûr et certain, et vous avez raison. Là-dessus, c'est vrai. Je ne peux pas vous amener, ça serait le fun, puis j'amènerais peut-être tout le Québec avec moi, mais c'est pas faisable, malheureusement. Il y a quand même des limites. Mais, vous, là-dedans, dans le fond, pourquoi je suis là ce matin? C'est que, dans le fond, le Seigneur nous a mis à cœur, on a prié devant le Seigneur. On sait que, justement, la prière est quelque chose de puissant. On a demandé au Seigneur des partenaires de prière. On sait que ce projet-là ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de la prière derrière, parce qu'on va prendre des mauvaises décisions, on va être humain, on va faire des erreurs, puis, malheureusement, ça ne glorifiera pas Dieu. Ça n'aura pas les résultats que ça peut avoir si Dieu n'est pas là-dedans de A à Z. Moi, j'ai mes limites. Si je me fie juste sur mes capacités, honnêtement, dans 5 minutes, ça va sûrement être catastrophique. Mais avec Dieu, je sais qu'on peut faire des grandes choses. Je sais qu'on peut justement arriver à changer les choses. Donc, c'est pour ça justement que je suis là ce matin pour vous parler. Nous, on a mis devant le Seigneur d'avoir des partenaires de prière. On a mis devant le Seigneur d'avoir 700 personnes qui prient pour nous. On a 700 personnes, ça se divise bien par 7, les journées de la semaine. Donc, on a demandé au Seigneur 100 personnes par journée de la semaine pour prier pour nous. Donc, en concret, ce que je vous demande, c'est de ne pas penser à nous 6 jours par semaine, mais de penser à nous une journée par semaine. Donc, c'est sûr que, on peut pas y arriver par nous-mêmes, il y a tout le temps différents problèmes qui peuvent arriver. On ne sait pas comment la prière fonctionne. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, c'est une chose que j'aime bien me rappeler. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne. J'ai pas besoin d'avoir. Un jour, je saurai peut-être comment ça fonctionne. Dieu nous le dira dans l'éternité, comment ça fonctionnait la prière à ce moment-ci. Mais Dieu fait des grandes choses à travers notre prière. Donc, on veut justement que ce ministère-là soit baigné dans la prière. Tout ça, on veut se monter cette équipe-là. Donc, de quelle façon ça marche? Dans le fond, vu sur la table en arrière que vous avez sûrement, vous avez peut-être entrevu avec les deux grandes banderoles, puis le drapeau dessus. Vous allez pouvoir trouver de l'information. C'est normal sur une table de missionnaire de trouver de l'information. Vous allez pouvoir trouver notre carte de prière. Vous allez pouvoir trouver un dépliant qui parle un petit peu plus de notre témoignage, moi, témoignage d'Isabelle, un peu plus certains éléments sur la Slovaquie aussi, des informations sur notre mission aussi. Mais ce qui m'intéresse surtout de vous parler, c'est que vous allez trouver sur cette table-là, un des deux pads que j'ai amené ici en avant, vous allez trouver justement une feuille d'inscription. C'est une feuille d'inscription qui vous engage seulement à prier, comme je vous disais, seulement une journée par semaine. Donc, puis la journée, je vous la laisse choisir. Donc, de quelle façon ça marche? Première colonne ici, donc, ce qui est marqué en haut, vous savez, vous n'êtes pas capable de lire d'ici, je vais vous le lire. J'aimerais prier pour les Bélanger et leur ministère en Slovaquie. Parce que c'est pas juste pour nous qu'on veut vous prier, c'est pour justement ce qu'on veut faire pour les Slovaques, prier pour les Slovaques eux-mêmes aussi. Donc, on a une colonne à prendre ici pour écrire votre nom, une deuxième colonne pour inscrire votre courriel ou votre adresse postale, parce qu'on comprend très très bien que y a les deux possibilités sont là. Puis, pourquoi justement avoir un courriel, une adresse? Parce qu'on veut vous envoyer des requêtes de prière, on veut vous envoyer des lettres de nouvelles à ce moment-là pour que vous puissiez savoir pourquoi prier pour notre famille, pour la Slovaquie, Alouette. Et puis, la dernière colonne qui est super intéressante, où est-ce que vous avez plein de liberté, parce que ici votre nom, vous n'avez pas de liberté de quoi faire. Votre adresse, aucune liberté non plus, si vous voulez que ça se rende. Mais ici, vous choisissez la journée. Si vous dites que c'est le vendredi que je veux prier, c'est le jeudi que je veux prier, moi, je suis bien correct avec ça. Je n'ai pas de préjugés pour les personnes qui prient le vendredi ou le jeudi. C'est parfaitement OK. Puis, c'est ce que vous marquez, tout simplement. Donc, nous, il y a quelque chose qui se passe en particulier jeudi ou il y a quelque chose qui se passe en particulier samedi, on va envoyer un email à cette gang-là pour dire, ben écoute, on a besoin en particulier de prière cette journée-là. Puis, de toute façon, au ministère, ça roule toute la semaine, on a tout le temps besoin de prière, c'est clair, net et précis. Donc, oui, je vous invite à prier avec nous là-dessus. Je vous invite à simplement vous inscrire comme partenaire de prière. Une lettre de nouvelles, on envoie quand même régulièrement, on envoie une lettre de nouvelles aux deux mois. Pour justement, présentement, la réalité, oui, on est encore au Québec, on est encore en préparation, mais on parle de notre groupe de jeunes, qu'est-ce qui se passe, les requêtes qu'il y aurait besoin ici, puis oui, un peu notre volet missionnaire et qu'est-ce qui se passe, des nouvelles sur nous, bref. Il ne faut pas juste que vous ayez entendu parler de nous une fois, que vous ayez entendu que, ben un prier pour, dans le fond, la sécurité sur la route, prier pour les Slovaques, prier pour nous, puis que vous ne vous rappelez plus jamais, vous n'avez plus jamais d'autres informations sur quoi prier. Vous allez avoir des updates là-dessus. Je mentionne au passage, au risque de l'oublier, ceux qui sont plus Internet et tout ça, on a un groupe aussi sur Facebook, les Bélanger en Slovaquie. Lettre de nouvelles, plus d'informations peut-être un petit peu plus régulières vu que c'est plus facile. Donc, vous allez pouvoir nous rejoindre aussi de cette façon-là. J'aimerais ça vous amener à ce moment-ci. Ben c'est ça, comme je vous disais, je vais juste terminer de ce volet-là. En fait, je vais être à la table juste dès que ça va être terminé. Puis, je n'ai jamais mordu personne. Venez me voir. Parlez-moi. Je parle très bien français aussi. Ça va très, très bien aller entre nous deux. Je ne parle pas encore slovaque. C'est quelque chose qu'on se garde pour quand on va être rendu là-bas en immersion, à apprendre. Mais c'est ça. Prenez une carte de prière. Prenez-en deux. Prenez-en trois. C'est très, très correct. Mettez-en dans votre Bible, sur le frigo, dans le frigo, si c'est là que vous êtes le plus souvent, ou la salle de bain, pour ceux que c'est le cas que vous êtes là le plus souvent, pour vous rappeler justement de prier pour nous. Donc, sur ce, j'aimerais ça tourner avec vous, tourner dans Jean, Jean 5, versets 1 à 5. Puis, justement, je vais vous apporter un petit quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, que le Seigneur m'a montré aussi, parce que, oui, la Slovaquie est un pays qui est un peu oublié dans son recoin d'Europe centrale, c'est un pays qu'on n'entend pas souvent parler. Puis, je me demande, j'ai vu, je cherchais dans les textes, je regardais, puis dans Jean 5, 1 à 5, je trouve qu'il y a une situation un peu semblable. Donc, je vous lis. Je vous fais la lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau était agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouva un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et effectivement, là, notre Seigneur Jésus lui dit : Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et puis, effectivement, ça fonctionne. Le texte nous continue disant Jésus, quand il a parlé, ça a fonctionné, ça a marché. Donc, dans la vie, j'aime beaucoup, beaucoup l'expression qui dit que la mémoire est une faculté qui oublie. On oublie dans la vie plein de choses. On est rendu qu'il y a même un petit gadget qui est publicisé sur Internet qui nous dit « Perdez plus jamais vos clés ». On attache un petit bidule après nos clés, puis c'est relié à notre téléphone intelligent, ça bip, puis on voit où est-ce que sont nos clés. Des fois, on oublie même avec un agenda, on oublie nos rendez-vous. On va oublier des choses à différentes places. Malheureusement, un très, très mauvais exemple de ça. Si je vous disais que ce matin, j'ai oublié ma Bible à Québec, c'est la Bible de mon épouse que j'ai dans les mains. Je l'ai oubliée. Oui, ça arrive à tout le monde. Des fois, des raisons pour oublier, il y en a plein. On peut oublier parce que, comme ce matin, le réveil matin n'a pas sonné, puis on est pressé, puis on a plein de choses qui remplissent à penser, puis on oublie quelque chose. Des fois aussi, si on regarde la définition même du dictionnaire, oublier, ça peut être négligé. On oublie de prendre soin de quelqu'un, on oublie un service qu'on était supposé rendre, on a négligé quelque chose à cause de justement de d'autres choses. Donc, c'est pas tout le temps pour mal faire qu'on oublie. C'est pas tout le temps pour dire que, écoute, je voulais absolument oublier ma Bible ce matin, je voulais vraiment pas l'avoir, c'était vraiment mon but de la journée. Ou mon but, c'était justement d'oublier d'aller, de rappeler telle personne, ça. Non, on le fait pas méchamment. Mais des fois, on le fait parce que c'est quelque chose qui nous intéresse moins, des fois parce que justement, on est bien occupé, des fois parce que simplement, on n'a pas pris la peine, on n'a pas fait assez d'efforts. Honnêtement, ce qu'il y a notre monsieur ici, il était oublié des hommes. Dans le fond, dans sa situation, il était oublié par les hommes. Notre monsieur avait une situation particulière. De ce qu'on voit, il n'y avait pas vraiment de support. Si on se fie à la logique, sûrement qu'il mendiait sur le bord de la rue pour pouvoir avoir de la nourriture, parce que s'il n'y avait pas quelqu'un pour le pitcher dans la piscine, il n'y avait peut-être pas personne même pour y amener de la nourriture. Puis, c'est quand même assez courant, justement, là-bas, les personnes étaient malades, ils mendiaient pour pouvoir avoir quelque chose à manger, tout ça. Comme on connaît aujourd'hui des personnes en situation difficile qui sont réduites à cette réalité-là. Donc, il était oublié par les hommes, laissé à lui-même depuis plusieurs années. Il était désespéré dans cette situation. Puis, dans le fond, il ne pouvait rien y faire. C'est ça qui est triste. Il était oublié un peu. Des fois, tu sais, il y avait le monde autour de lui, faisait leur petite affaire, puis il s'en occupait un petit peu, mais il continuait leur réalité, simplement. Dans la société aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup individualiste, on est beaucoup, beaucoup, je m'inclus là-dedans, on a nos petites choses qui roulent, on fait notre petite affaire, puis on ne pense pas nécessairement au reste, on ne pense pas nécessairement à ce qui se passe ailleurs ou ce qui se passe plus proche même, en dehors de notre petite bulle à nous. Mais il y a des besoins qui sont là, des besoins plus petits, des besoins plus grands, c'est une réalité. On a cette réalité-là justement où est-ce que même nous, on oublie certaines personnes, certains pays, on pourrait dire même, qui ont des besoins missionnaires, on y pense pas parce que oui, on s'informe pas ou parce qu'on n'a pas le temps d'y faire attention. Après ça, ce que j'aimais aussi dans ce texte-là, on voit que notre monsieur, quand on lit au verset 3, on voit qu'il était oublié parmi les hommes. T'sais, est-ce qu'il y avait un besoin? Oui. Il était malade depuis toujours, du moins c'est ce que le texte nous fait croire, nous indique. mais il était au milieu de plein d'autres personnes qui avaient des besoins, qui étaient malades. Il y avait des aveugles, des estropiés, des paralysés, alouettes, je suis sûr qu'ils ne mentionnent pas nécessairement tout ce que le monde avait là-bas, mais il y avait des besoins, c'est sûr et certain, puis lui était aussi un grand besoin. Il n'était pas plus petit ou nécessairement plus grand qu'un autre en tant que besoin. Dans le monde, honnêtement, c'est pareil. Puis, souvent, ça peut arriver des fois qu'on a les mêmes pays qui nous reviennent, puis qu'un pays, un peu, est oublié parmi les autres. Puis, je ne parle pas uniquement de la Slovaquie, c'est pas juste ça, mais il y a plein de pays, il y a une centaine de pays au monde qui sont moins évangélisés que le Québec. Je ne suis pas en train de vous dire que chaque personne doit prendre un de ces pays-là et y aller. Ce ne serait pas une mauvaise idée quand même. Mais il y a des besoins partout, ici et là-bas aussi. Mais on se doit juste de faire attention de ne pas justement laisser un pays parce qu'on se concentre juste sur certains pays. On se doit de prendre intérêt parce que Dieu aime toutes ces personnes-là. C'est clair, net et précis. Dieu les aime autant un que l'autre, autant nous que ces personnes-là. Donc, on se doit d'avoir d'avoir l'amour de Dieu pour ces personnes-là, puis pas justement les oublier parmi les autres, au milieu des autres. Puis, c'est ce qui arrive, oui, parce que pour différentes raisons. De un, parce qu'on a un horaire qui est tellement rempli. J'ai la bonne impression que Satan essaye que notre horaire soit le plus rempli possible, que notre tête soit, si possible, jam-pack de trucs pour qu'on n'ait pas l'occasion de penser. Pas l'occasion de s'impliquer à l'Église, pas l'occasion de penser aux pays qui sont en besoin, pas l'occasion de faire ces choses-là que Dieu voudrait qu'on fasse, pas peut-être le temps même de penser à est-ce que Dieu voudrait que je devienne missionnaire, peut-être. Donc, je pense, oui, effectivement, que Satan se réjouit dans le fait qu'on ait une vie qui est tellement, tellement occupée, puis qu'on n'ait pas le temps de faire qu'on n'ait pas le temps de prier, pas le temps de pas de possibilité de participer aussi dans un voyage, dans un engagement missionnaire quelconque. Mais ce qui est bon à voir dans ce texte-là aussi, c'est que oui, notre monsieur était oublié par les hommes. Il était oublié parmi les hommes qu'on parlait. Il était oublié à travers les besoins qu'il avait. Mais il n'était pas oublié de Dieu. À ce moment-là, Jésus l'a vu, Jésus, justement, est allé vers lui, a pris soin de lui, ça. Puis, ce que je veux amener aussi là-dedans, c'est que, oui, Dieu nous aime tous et chacun, puis Dieu a tout le temps, Dieu veut que son message arrive à chacun des êtres humains. Dieu a à cœur qu'il puisse avoir une façon que les gens entendent parler de l'Évangile. Que ce soit, oui, au Québec, peut-être dans les raccoins de fond de paroisse, dans les raccoins de fond de village, peut-être dans le fond de la maison de votre voisin. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de l'Évangile, mais aussi, oui, jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'on est béni, on est extrêmement béni, parce qu'au Québec, même, je dirais, en Amérique du Nord, l'accès à l'Évangile est super facile. Google, Évangile, Google Jésus, on va pouvoir trouver facilement, on va pouvoir avoir accès à de la littérature chrétienne, on va pouvoir avoir accès d'une manière ou d'une autre à une Bible dans notre langue, mais dans tellement de pays, c'est pas possible. Tellement de pays au monde ont même pas, mais tellement de personnes au monde, devrais-je dire, n'ont pas encore même la Bible dans leur langue. Ils ont peut-être un des livres de la Bible, ou il n'y en a peut-être même pas du tout dans leur langue qui sont capables de comprendre. Plusieurs pays n'ont pas accès à l'Évangile ou à des personnes qui connaissent l'Évangile. C'est une réalité aussi. Donc, mais Dieu ne les a pas oubliés. Dieu les aime autant. On voit l'exemple. Puis Dieu veut envoyer des personnes. Dieu veut que ces gens-là puissent entendre parler de l'Évangile, comme je le mentionnais. Et puis, je me rappelle toujours de l'exemple de Ninive. Honnêtement, Ninive était oubliée par Jonas. Jonas, il ne voulait pas y aller à Ninive. Il ne les aimait pas. Puis, je ne suis pas en train de dire que c'est notre cas où est-ce qu'on n'aime pas parce qu'on ne va pas en mission, parce qu'on ne participe pas à la mission. Non. Mais Jonas, lui, ne voulait pas. Mais Dieu s'est organisé pour que Ninive ait son message. Dieu a même renvoyé un autre missionnaire par après, Nahum, qui a été aussi envoyé vers les gens de Ninive. Mais ça, Dieu ne les oublie pas. Dieu veut que ce soit que ça arrive, ça. Puis, il faut juste faire attention, être attentif à Dieu. Peut-être que Dieu veut que vous participiez à de l'évangélisation locale, mondiale, mettons-le de cette façon-là, au lieu d'utiliser le mot mission. Mais Dieu veut vous utiliser pour quelque chose, ça, c'est sûr et certain. Dieu a en tête un plan pour vous. Dieu veut que vous soyez utile où est-ce que vous, pour son royaume. Dieu veut que vous soyez, parle, que vous soyez un témoignage pour lui. Oui, où est-ce que vous êtes présentement? Peut-être aussi à quelque part d'autre. Mais ça, c'est le Seigneur qui vous le dit. C'est, si vous voulez l'écouter, c'est le Seigneur qui va pouvoir vous l'indiquer. Aussi. Je veux simplement, dans le fond, terminer, conclure. Oui, le Seigneur nous montre ce qu'il veut. Le Seigneur a des plans pour nous. Puis, même si ce n'est pas toujours facile, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas de meilleur sentiment, pas de meilleure façon. Il n'y a pas de plus grande paix que d'être dans la volonté de Dieu. Oui, puis, oui, Dieu avait quelque chose en, pour nous. On essaie du mieux possible de suivre ça, de suivre ce que le Seigneur voudrait pour nous. Puis, ça inclut, oui, d'être en visite ce matin ici. C'est avec plaisir qu'on y est. Puis, en fond, venez me voir tout de suite après. Je vais être justement en arrière. Puis, n'oubliez pas, la feuille est là pour s'inscrire. On est à peu près présent. On est à 310 partenaires de prière présentement. On a commencé depuis février. Puis, on remercie le Seigneur. Rendu juste avant Noël, on n'est pas loin de la moitié. On va partir quand le Seigneur va nous donner nos 700. Puis, quand le Seigneur va nous donner 100 personnes par jour. Pour ceux qui ont la question aussi, quand est-ce que vous en allez? On sait que vous avez peur qu'on s'en aille pour, de cette façon-là, mais donc on viserait peut-être partir à l'automne ou hiver 2015, hiver 2015-2016. Si le Seigneur le veut, le Seigneur connaît le meilleur timing, par exemple. Si le Seigneur veut qu'on parte avant, on va partir avant. Si le Seigneur veut qu'on parte après, on va partir après. Le Seigneur est mon soutien. C'est le Seigneur qui s'occupe de fournir tout ce qu'on a de besoin. Puis je le remercie Seigneur d'avoir ouvert la porte ici ce matin. Puis je remercie le comité missionnaire, M. Dico et tous les autres. Merci à vous pour ce temps-là ce matin.
Ta présentation, nous te sommes reconnaissants. On va prier pour toi. Je vais te dire que oublier, ce n'est pas petite affaire parce que cette semaine, j'ai oublié de payer mon permis. Tu sais combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 452 $ de taxes que le gouvernement, que la police m'a pris. J'ai simplement oublié. Donc, l'oubli peut coûter cher. Donc, on ne va pas oublier les Slovaquies. On va prier puis pour les autres champs aussi. Alors, on va prier. Toi.
Seigneur, après Dieu, on veut te remercier vraiment pour... le fait que tu envoies encore des gens dans la moisson. Seigneur, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde, il y a des besoins qui sont grands et tu les connais mieux que nous. Seigneur, on ne sait pas pourquoi tu choisis d'envoyer une personne à un endroit, mais toi, tu le sais exactement pourquoi. Et ça fait partie de ton plan et il est important de marcher dans les voies que tu veux bien nous tracer. Donc oui, Seigneur, on veut te remettre cette famille afin que tu puisses vraiment les diriger, les préparer adéquatement aussi afin de servir là-bas. Les jeunes, la jeunesse, c'est quelque chose que tu as de précieux à tes yeux, Seigneur. Et on veut que te prier pour qu'au travers de leur ministère, vraiment, ils puissent avoir un ministère rassembleur dans cette région du monde et que vraiment les églises puissent voir les besoins relatifs à cette jeunesse aussi, Seigneur. Ton témoignage doit continuer et il doit continuer au travers des jeunes aussi. Donc, permets que vraiment il puisse être un outil puissant et utile entre tes mains. Et c'est dans le nom de ton Fils qu'on t'en prie. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous voulons prier pour notre frère Philippe Bélanger et puis Isabelle et les enfants. Merci pour cet appel que tu as lancé sur leur vie. Et l'Écriture nous rassure que tu es un Dieu, quand tu appelles, tu qualifies. Quand tu appelles, tu pourvois. Alors nous croyons qu'au travers de cet appel, que cet appel que tu as lancé sur leur vie ne sera pas en vain, que tu vas pourvoir. Soit par nous, par d'autres personnes, tu vas pourvoir. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la force de pouvoir participer dans cet appel, Seigneur, pour soutenir, pour te donner gloire, telle est ta volonté, notre Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu suscites des hommes et des femmes partout pour soutenir cette œuvre, car les Slovaques ont besoin d'entendre aussi parler de toi. Ils ont besoin d'entendre parler de toi parce que tu le dis. À la fin des temps, Seigneur, nous le voyons dans l'Apocalypse, que toutes les nations étaient réunies devant le trône de l'agneau. Alors nous voudrons que les Slovaques fassent partie de cette grande foule qui se tiendra devant le trône de l'agneau pour le louer et pour le bénir. Fais-leur du bien. Soutiens-les avec leurs 4 enfants. Isabelle qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, donne-lui la force de pouvoir s'occuper bien des enfants et de soutenir son mari efficacement dans cette œuvre. Et que ces enfants-là aussi soient, pourquoi pas, des missionnaires, des évangélistes, des pasteurs qui vont te donner gloire. Nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci, Seigneur, pour la présence de ton serviteur Philippe, ainsi que de son épouse et de ses enfants. Merci de cet appel que tu as mis, que tu as déposé dans son cœur pour ce peuple, les Slovaques, que nous ne connaissons pas, Seigneur, mais que nous voyons par la présentation de notre frère que les besoins sont énormes. Ce monde souffre d'une soif de la vérité, Seigneur. Et on te prie ce matin pour que tu, si c'est ton désir, ta volonté, Seigneur, que cette famille quitte le confort, les commodités de ce beau pays que nous avons pour un endroit qui pourrait même être hostile à leur présence, au message qu'ils apportent. Et Seigneur, on veut te prier pour le Québec, qui ont reçu ce message de Philippe, cet appel. Seigneur, qu'on ne soit pas un peuple oublieux. Que l'on ait à cœur de prier pour l'appel de notre frère. Et si possible, de le soutenir financièrement. Car on ne peut pas s'en passer, Seigneur, dans ce monde. Les besoins financiers sont là. Donc, Seigneur, tout cela t'appartient. Alors, on présente devant toi ces besoins, ces prières, afin que l'appel de notre frère et de sa famille puisse se concrétiser, Seigneur, si c'est ton désir. Dans le beau nom et le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Avant de partir, nous voulons aussi profiter de l'occasion de remercier M. Laval-Perron et Manon qui ont décidé de prendre ce couple avec eux pour dîner avec eux, parce que tous les responsables sont...